Salut, Luc.
Salut.
OK, tu veux parler des solutions pour contrer la pénurie d'infirmières. Et Luc, au début de la deuxième heure, là, à 16h05, on a parlé avec le docteur François Marquis de Maisonneuve-Rosemont et il nous a dit que son gros problème à la veille d'une possible deuxième vague, c'est pas le manque d'équipement comme ça a été le cas au printemps, c'est le manque de personnel, dont les infirmières.
Eh oui, puis c'est déjà le cas dans certains hôpitaux. Alors évidemment, on se dit, est-ce qu'on est prêt à affronter la deuxième vague? C'est la raison pour laquelle ça attire autant d'attention. Bon, alors j'ai fouillé un peu, puis évidemment, la première chose qui tombe sous les yeux quand tu fais un peu de recherche, c'est que la pénurie d'infirmières, elle est internationale. Dans tous les pays développés, il y a le même phénomène. Il y a 10 000 employés de la santé qui franchissent la douane à Windsor, entre l'Ontario et les États du Midwest tous les jours. Puis là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infirmières, parce que les États-Unis font face à une telle pénurie qu'ils viennent recruter au Canada. Fait que si c'est la même chose aussi en Grande-Bretagne, ils s'arrachent les cheveux sur la tête. Et les raisons sont souvent à peu près les mêmes, avec des variations, bien entendu. La première raison, le privé vole les infirmières au public dans tous les pays du monde. C'est pas juste ici que les agences de placement volent les infirmières et leur offrent des conditions de travail un peu meilleures, puis après ça, les revendent à l'État. C'est une chose qui est internationale. La deuxième chose, c'est la mauvaise répartition de la charge de travail, parce que c'est pas pareil travailler en contact avec le public, aux urgences, par exemple, puis aux ailes psychiatriques. Et notamment ça dans les pays, par exemple aux États-Unis, où tu as des hôpitaux publics, où tu travailles en contact avec des gens qui sont dans la rue, qui ont des problèmes, il y a de la violence verbale. Si tu travailles en esthétique dans un hôpital privé, c'est pas du tout le même contexte. Alors, il y a un magasinage de postes qui se fait, qui s'ensuit dans tous les pays du monde. Les personnes qui sont dans ces postes d'entrée-là, ils cherchent à le quitter, et donc, il manque toujours de monde dans ce type de poste-là, et ça, c'est à travers le monde. Les quarts de travail, jour, nuit, soir. Bien Mais... entendu que tout le monde, puis surtout parce que c'est une profession féminine, tout le monde préfère travailler deux jours. Du moins, les jeunes infirmières qui ont des enfants.
Pas juste ça, Luc, le temps supplémentaire obligatoire.
Oui, c'est ce qui s'ajoute à ça. C'est ça, c'est que j'y arrivais, là. C'est que l'obligation, à cause de tous ces problèmes-là, il y a un cercle vicieux. Il y a un autre problème là qui est l'absentéisme. J'arrive au temps supplémentaire obligatoire. Je vais parler juste des problèmes de base pour commenter. Donc le dernier, c'est l'absentéisme. L'absentéisme, c'est que tu peux pas. C'est un métier où tu peux pas dire je vais rentrer à 10h parce que mon fils est malade, je suis allé le porter chez sa mère, ou parce que tu as un rendez-vous important ou n'importe quoi. Si la moindre chose qui arrive dans ta vie privée, tu es obligé de prendre congé de maladie parce que ton employeur va refuser. Et ça, je le lisais en français et en anglais dans tous les pays que j'ai constatés. Alors là, il se passe quoi? Il se passe que, ici au Québec, comment on règle cette situation-là? On la règle de deux façons. On la règle avec le temps supplémentaire obligatoire, qui est devenu une plaie, puis l'appel à des agences. Donc, j'ai pas de personne sur le plancher, j'appelle une agence, puis elle va me la fournir, cette personne-là. Alors, ça, évidemment, c'est le poison dans la machine. C'est un cercle vicieux parce que ça dépersonnalise le travail, ça anonymise l'équipe de travail. Là, t'as jamais la même équipe de travail, ça empêche la synergie entre les gens. Il n'y a pas de reconnaissance, considéré comme du bétail. Tu sais, un trou, une cheville, j'ai besoin d'un 8 heures. T'sais, en fait, ils devraient les appeler des 8 heures. J'ai besoin d'un 8 heures, amène-moi un 8 heures. Tu sais, c'est pas... Il n'y a plus de reconnaissance du travail. Et évidemment, c'est un travail, comme on le disait l'autre fois, tu te rappelles, c'est un travail où tu dois donner des soins, et pas juste des soins de santé, mais de l'attention et de l'attention humaine. Et ça, quand tu arrives dans une nouvelle équipe, sur un nouveau plancher, puis que tu changes très souvent, tu passes une semaine ici, une semaine là, c'est pas pareil. L'ambiance est différente.
Luc, faut parenthèse, là, on parle des infirmières, mais un peu partout dans le réseau, tous les métiers où on prend soin des gens, pense à DPJ, pense aux profs, pense aux gens des CHSLD, il y a des crises, il y a des pénuries de personnel, puis c'est souvent lié au fait que la tâche est tellement tough que les gens durent pas.
Exactement. Puis surtout dans certains... Parce que, tu sais, la tâche est dure, oui, mais tu sais, c'est pareil en éducation. Il y a des écoles très difficiles, il y a des écoles, c'est beaucoup plus facile. Alors, évidemment, il y a cet écart-là dans la qualité de ta vie, puis dans la charge de travail, n'est pas reconnu non plus. Alors, tout ça mène à un paquet de problèmes. Mais aujourd'hui, c'est pas juste de ça que je vais te parler. Je vais rajouter une couche de réflexion supplémentaire, qui est la convention collective. La convention collective, on n'en parle pas. Tu sais, quand tu parles d'école bleue, on ne gêne pas. Hein? École bleue, eux autres, ils ont le nez de plongée dans la convention collective, puis ils font pas une minute de plus. Puis quand on parle des infirmières, on se garde une petite gêne à cause de tout ce qu'on s'est dit. C'est un travail de soins, etc. Puis ils ont une cote devant le public infiniment plus grande que d'autres employés de l'État. Mais il y a aussi des particularités où les filles, les infirmières jouent le livre. Et par exemple, le temps partiel. Tu sais qu'il y a 60% des employés qui travaillent à temps partiel. 60%. Et c'est en croissance. Est-ce que tu sais pourquoi?
Aucune idée.
Parce que ton temps et demi commence après 16 heures.
OK, si tu es sur un horaire de 16 heures, dès que tu fais une heure de plus, tu es à temps et demi.
Voilà.
Mon Dieu. Ah, OK. Fait que là, tu peux te rendre disponible pour une paye à temps plein, mais il y a une grande partie de ça qui va être à temps et demi.
Tu vas être beaucoup mieux payé que si tu travaillais à temps plein.
Ben, je comprends là que... Je comprends où tu veux en venir, mais c'est habile.
Oui, c'est un peu, pourquoi elle ne le ferait pas, tu sais. En plus, s'ils se mettent à temps plein, de toute manière, on va leur demander du temps supplémentaire.
Oui, exact.
Puis là on va les épuiser. On va les épuiser bien raide. Et c'est ce qui se passe. On va les épuiser, on va les écœurer, puis on va les traiter comme du bétail. Puis alors, bon, ben, un fou d'une poche, je ferais pareil. Un fou d'une... Mais ça exige quoi? Ça exige une négociation, une convention collective.
Mais tu penses pas que c'est une réponse, justement, à d'autres absurdités des relations de travail?
Absolument, absolument. C'est ce que, tout ce qu'on a prenant, tout ce qu'on a, dont on a parlé un peu plus tôt, un peu plus haut, mène à ça. Mène au fait que, OK, mais moi, j'ai pas une... je ne suis pas considéré quand je travaille à temps plein. J'ai pas une considération. Au contraire, on va m'en demander plus. Ben alors, je vais travailler soit dans une agence, soit je vais travailler à temps partiel. L'autre chose, c'est qu'il y a des solutions, comme par exemple, dans le réseau anglophone au CUSUM, beaucoup, beaucoup moins de problèmes d'absentéisme, ça va beaucoup mieux. Le CUSUM, donc c'est l'hôpital universitaire attaché à l'Université McGill, à Montréal. Mais pourquoi? Mais parce que eux, ils fonctionnent selon le système trois quarts de 12 heures. Donc, tu fais trois fois 12 heures dans ta semaine, après ça, c'est fini. Donc, tu as 4 jours pour le reste de tes engagements, ta famille... si tu dois aller pour des rendez-vous personnels, etc. Et la rotation jour, soir, nuit, elle n'est pas liée à l'ancienneté. Donc, tu vas toujours faire du jour, soir, nuit, mais tu vas le faire juste 3 jours par semaine. Et ça semble marcher beaucoup mieux. Mais par contre, on n'est pas capable de transférer ça aux hôpitaux francophones encore à cause de la convention collective. Donc, là, il y a une question à se poser. Est-ce que le gouvernement en place va être capable de casser le cercle vicieux qui fait qu'on fait juste appel à du temps supplémentaire obligatoire, puis on fait juste appel à des agences parce que plus personne ne veut travailler à temps plein? Est-ce qu'ils vont être capables d'introduire, casser ce cercle vicieux-là en donnant de la qualité de travail, mais en exigeant, d'autre part, des modifications importantes à convention? Et moi, ma réponse, si tu veux, mon hypothèse, c'est que ça se fera pas. Parce que le gouvernement fait pas le poids en termes d'image devant les infirmières. Dans l'esprit de tout le monde, les infirmières tiennent le réseau à bout de bras. Quand on se fait traiter, c'est elles qui nous traitent en premier. Donc, c'est le visage du système de santé, puis c'est le visage humain du système de santé. Le gouvernement va toujours avoir l'air de quelqu'un qui essaie d'en avoir plus pour son argent, puis Dieu sait que dans ce domaine-là, il est peut-être un peu coupable aussi. Mais moi, je pense que ça passe par là. Ça passe par casser le cercle vicieux actuel et redonner de la qualité, de la reconnaissance de l'équipe, mais aussi exiger des choses.
Très intéressant. Moi, je te dis, je regarde des problèmes en santé. Là, je te l'ai dit, là, on a fait une entrevue avec François Marquis, le directeur des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont, qui me parlait des problèmes de personnel. Ça me donne le vertige, comme regarder un trou noir, le problème d'effectif. Oui, non, mais pour
totalement,
vrai.
Totalement.
Parce que, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, ça revient à chaque année, c'est sans fin. Et il y a vraiment quelque chose là-dedans où tu te dis, est-ce que quelqu'un, à un moment donné, va solutionner le problème?
Non.
On dirait que non, on dirait qu'on n'est pas capable de faire ça.
Non, c'est ça. Il y a les rapports de pouvoir dont je te parle entre le syndicat et le gouvernement. Puis il y a aussi le fait que, imagine-toi, si toi, tu es le gouvernement, OK? T'es le système, monsieur système. Là. Puis tu as besoin de quelqu'un qui va travailler la nuit de Noël, la nuit de Noël. Et personne ne veut travailler la nuit de Noël. Là. Tout le monde a des enfants. Là. La plupart, beaucoup, non, pas tout le monde a des enfants. Mais enfin, des familles. Tout le monde a bien des gens ont des familles, une proportion. Puis même quand tu n'as pas de famille, mettons que tu n'attends pas de travailler la nuit de Noël. Mais mettons que tu as une famille, ça te tente encore moins de ne pas être autour du sapin.
Évidemment.
Bon. Mais si les infirmières ne t'opposent pas de résistance, tu vas à pied sur un piton pour que la première se présente.
Oui.
Il faut que les infirmières négocient leur qualité de travail. Il faut qu'elles le fassent. Mais il faut aussi que le gouvernement le fasse. Et ça, on en parle peut-être un peu moins souvent.
On s'en parle.
OK.
Merci,
ciao.
Luc.